Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages
maudits
pour retrouver deux chroniqueurs
maudits
pour qui tout va pour le mieux. David Cassé-Lopez, vous nous racontez les origines d'Adidas.
Exactement.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on parle société avec vous, Virginie Giraud, notre historienne des mœurs. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au 13 mars 1905, lorsque Mata Hari va révolutionner la danse exotique.
Libérer les femmes, ça passe aussi par la libération de leur corps. Et au début du XXe siècle, le striptease, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est un acte d'émancipation. Quand Mata Hari arrive à Paris après son retour de Java où elle vivait avec son ex-mari officier de marine, elle n'est rien ni personne. Pour survivre, elle cherche de riches amants et infiltre la bonne société pour se faire des relations.
J'imagine qu'elle ne va pas se présenter comme une petite Hollandaise fraîchement divorcée.
Et non, ça fait mauvais genre. Elle se lie d'amitié avec une baronne et pour piquer sa curiosité, elle lui raconte qu'elle s'appelle Mata Hari, l'œil du jour en javanais, qu'elle est la fille d'une princesse indonésienne et d'un prêtre bouddhiste. Pour la baronne, c'est une évidence. Mata Hari doit venir exécuter une danse sacrée chez elle devant ses amis.
Oula, ça c'est difficile à tenir, hein, à moins de prendre des coups à Kamel Wally. Mais comment elle va s'en tirer ?
Mata Hari, c'est une pro de l'arnaque. Elle prend date avec la baronne et elle se laisse quelques jours pour trouver un costume exotique et répéter une chorégraphie vaguement empruntée aux danseuses qu'elle a vues à Java. Le soir fatidique arrive et Mata Hari fait un tabac. Et là, dans le public, il y a un homme qui est particulièrement touché par sa prestation. C'est Émile Guimet, le fondateur du musée d'art oriental qui porte aujourd'hui son nom.
Ah bon, qu'est-ce qu'il va lui proposer ? C'est pas lui qui va lui donner l'idée du striptease quand même.
Mata Hari va faire un spectacle exceptionnel qui lancera sa carrière de danseuse exotique. Elle prépare soigneusement son coup. Et enfin, le 13 mars 1905, c'est son grand soir. Il faut imaginer la bibliothèque ronde tout en bois du musée Guimet, la lumière, des petites lampes qui éclairent la scène, quelques musiciens et Mata Hari qui fait son entrée enveloppée dans de grands voiles. Dans le public, il y a des hommes habillés en costumes sombres et des femmes en robes de soirée colorées. Tout le monde regarde Mata Hari qui interprète une danse où elle offre tous ses voiles, un par un, à la statue du dieu dans l'espoir de retrouver son amour perdu. Et tout le monde la regarde se déshabiller. Il faut se dire que personne n'a vu ça dans un musée à l'époque. C'est incroyable, normalement il n'y a qu'au bordel qu'on voit des femmes se déshabiller.
Mais vous voulez dire qu'elle a fini entièrement nue comme ça au milieu d'un musée ?
Ne perdons pas de vue une chose importante, Mata Hari est une arnaqueuse. Dans la pénombre, elle a l'air presque nue. En réalité, elle ne montre pas sa poitrine, elle garde toujours un soutien-gorge en métal. Et à ceux qui osent demander pourquoi elle ne l'enlève jamais, elle répond qu'un ancien amant jaloux lui a arraché un téton. La vérité, c'est qu'elle complexe sur sa poitrine depuis qu'un peintre pour lequel elle avait posé lui a dit qu'elle avait de trop petits seins.
Ah bah bravo, c'est pas très body positif tout ça.
Et pour le bas, qu'est-ce qu'elle a enlevé ou comment ça s'est...
Pour le bas, elle a l'air nue, elle a l'air seulement. Elle porte en réalité une sorte de collant chair qui ne montre rien du tout.
En bref, chez Mata Hari, tout est de l'esbrouf.
Exactement. Mais ça marche, parce que personne n'avait osé le faire avant elle. Et après son succès chez Émile Guimet, elle enchaîne les engagements et ses feuilles dans les soirées privées de la bourgeoisie parisienne et sur les grandes scènes, comme l'Olympia. Elle se fait payer jusqu'à 1000 francs or par représentation. Évidemment, le succès de Mata Hari va vite inspirer d'autres artistes et il y en a une qui ose vraiment tout montrer sur scène. Vous avez une idée de qui il s'agit ?
Lynn Renault.
Oui, mais un peu plus tard.
Joséphine Baquet.
Et non, il s'agit de Colette, la fameuse auteure des Claudines. À partir de 1906, elle enchaîne les scandales sur scène en jouant des pantomimes très osées. Dans une pièce, elle interprète un faune habillé d'une courte peau de bête sans rien en dessous. Et au premier rang, hein, on confirme qu'on voit tout. Et dans la chair, elle porte une incroyable robe fendue sur le côté jusqu'à la taille et l'un de ses seins est totalement dénudé. La différence fondamentale entre Mata Hari et Colette, c'est que Mata Hari a besoin de gagner de l'argent rapidement. Colette, elle, a des revenus grâce à ses livres, mais elle veut vivre l'expérience de la scène et mettre en valeur son corps dénudé. C'est un acte subversif, émancipateur et érotique.
Bravo, mes aïeux, quelle époque. Merci Virginie. À cause de vos histoires, je vois bien que Jean-Luc et David sont tout émoustillés maintenant. Qu'est-ce que je vais faire?
On est fragiles, vous savez.
Il y a une suite? suite en podcast à ce joli teasing?
Eh oui, il va falloir écouter la suite maintenant, les garçons. Et comme le public, vous pourrez la retrouver sur votre plateforme d'écoute préférée avec le podcast Au cœur de l'histoire, où je vous raconte l'histoire de Colette. Et je vous promets qu'on va passer un bon moment.
Et Colette, eh ben, nous en parlerons aussi ici même vendredi, notamment de sa relation avec sa mère à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance.